Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde. Salut à vous, vous êtes sur RDIWA 107.5. La pensée des peuples aborde aujourd'hui le thème de la nature et de l'homme. Comment cette nature peut être négligée et abîmée par la présence de l'homme, alors que l'on devrait la respecter, la protéger. C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Victor Hugo. Nocturne de Léon-Paul Fargue. Un long bras timbré d'or glisse du haut des arbres et commence à descendre éteinte dans les branches. Les fleurs et les feuilles se pressent et s'entendent. J'ai vu l'orvée glisser dans la douceur du soir. Diane sur l'étang se penche et met son masque. Un soulier de satin court dans la clairière, comme un rappel du ciel qui rejoint l'horizon. Les barques de la nuit sont prêtes à partir. D'autres viendront s'asseoir sur la chaise de fer. D'autres verront cela quand je ne serai plus. La lumière oubliera ceux qui l'ont tant aimé. Nul appel ne viendra rallumer nos visages. Nul sanglot ne fera retentir notre amour. Nos fenêtres seront éteintes. Un couple d'étrangers longera la rue grise. Les voix chanteront, d'autres yeux pleureront, dans une maison neuve. Tout sera consommé, tout sera pardonné. La peine sera fraîche et la forêt nouvelle. Et peut-être qu'un jour, pour de nouveaux amis, Dieu tiendra ce bonheur qu'il nous avait promis.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi. Toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable, à moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Conte aztèque de Françoise Rachemoule. Le cinquième soleil. Selon la mythologie aztèque, le monde s'est constitué par étapes, et chaque étape s'est terminée par une catastrophe. Il ne s'agit pas seulement du déluge, que l'on rencontre dans tant d'autres civilisations, mais de la destruction par le vent ou par le feu, reflet d'une réalité terrible au pays des typhons et des volcans. Avant nous, avant notre époque, disent les vieux, il y eut quatre genres de vie, quatre genres d'hommes, sous quatre soleils différents. Au commencement, disent les vieux, la terre et le ciel se sont établis. Et quand ils furent bien établis, le dieu Quetzalcoatl fabriqua l'homme avec de la cendre. C'était sous le premier soleil, du signe de l'eau. On l'appela soleil d'eau. L'eau déferla sur le monde, elle inonda tout. Les hommes devinrent des poissons. Alors, disent les vieux, fut établi le deuxième soleil, sous le signe du jaguar. Il bouscula le ciel, il cessa de suivre sa route. Quand il arrivait à midi, il répandait la nuit, et les jaguars dévoraient les hommes. Sous ce soleil vivaient des géants. Lorsqu'ils se rencontraient, ils se saluaient en disant « Ne tombez pas, car celui qui tombait ne se relevait pas. » Le troisième soleil fut établi alors, disent les vieux, sous le signe de la pluie. Quelle pluie ? Une pluie de feu. Sous ce soleil, elle est tombée. Tout ce qui vivait a été brûlé. Il n'a plus du sable, il n'a plus des pierres. Les roches sont devenues couleur de feu. Alors, disent les vieux, le quatrième soleil a été établi. On l'appela soleil de vent. Tant qu'il a duré, le vent a soufflé et il a tout emporté. Les hommes se sont dispersés dans la montagne et sont devenus des hommes singes. Alors, nous disent les vieux, est né le cinquième soleil, celui qui nous éclaire maintenant. C'est lui qui a créé l'aurore, on l'appelle soleil de mouvement. Il avance, il suit sa route. Il éclaire tous ceux qui se déplacent sur la terre et tous ceux qui ont faim. Et c'est ainsi que nous mourrons à cause des déplacements et des famines, sous le cinquième soleil, celui qui existe maintenant. De Jacques Prévert. Tant de forêts arrachées à la terre et massacrées, achevées, rotativées. Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier. Des milliards de journaux attirant annuellement l'attention des lecteurs sur les dangers du déboisement des bois et des forêts.
l'amour meurtri. Le temps qui fait mal ou qui triche, l'horloge qu'on récupère au fond d'une poubelle de tri. J'écris l'amour dont l'homme a fait le sacrifice. Quand au hasard d'un détour, il a choisi de tout détruire. J'écris ma honte face au vieux cèdre, présent depuis des millénaires, dont le bois va servir à faire des étagères. L'amour pour les peuples autochtones, chassés de leurs forêts par les tractopelles de Monsieur Bolloré. J'écris l'amour aux réfugiés, ceux-là même qu'on nomme les migrants, faisant semblant d'omettre que les mots sont importants. Ce sont nos guerres, nos idéaux colonialistes pourtant, ce sont leurs morts tués au nom de nos principes. J'écris le courage de celui qui se retire, au marin qui prend le large sans savoir s'il pourra revenir. J'écris demain pour celui qui résiste, le chagrin du prisonnier et le sourire de l'homme libre. Et pour ces animaux en cage, toujours beaucoup d'amour, puisque de toute leur existence, ils ne verront jamais le jour. À leurs copains dans les cirques, les élevages, les abattoirs. Mais en vouloir à ce monde, c'est en vouloir à notre miroir. L'être humain a encore tellement de choses à apprendre, parce que prendre soin de nous, c'est aussi prendre soin d'eux. Amour pour ceux qui savent que couper la viande se prononce comme couper la vie en deux. Et encore de l'amour pour ces immenses eucalyptus plantés par la main de l'homme pour en faire des prospectus. Oh, grand arbre, est-ce une consolation? Ton bois fera du papier pour ses livres contre la déforestation. J'écris les larmes de la terre abreuvées de pesticides, à coups de lobbies influents dans les rangs de l'hémicycle. Et jusqu'à quand la sécheresse questionne le paysan? Combien de litres de larmes pour arroser mon champ? Amour pour cette bande de copains autour d'une table ronde qui se demande comment ils pourront soigner le monde et qui décide d'agir d'abord à leur échelle. Il est un premier grain de sable qui deviendra le Sahel. Mais faire sa part ne suffit plus, mon petit colibri. Demain, il sera trop tard pour éteindre l'incendie. Je voudrais plus de cœur, je fais pas confiance aux machines. J'écris l'amour avec le A de anarchie.
J'écris le froid, le vent.
Radical, c'est prendre les choses à la racine. J'écris l'amour avec le A de anarchie.
Je prépare aujourd'hui le plus beau de tous les défis. C'est un cadeau.
Cœur qui balance entre résistance et utopie. J'écris l'amour avec le A de anarchie. La force de tout quitter, leur patron, leur confort, leur petite vie bien meublée, qui se mettent en danger pour apprendre comment résister, et qui redonnent du sens au mot humanité. J'écris l'amour pour tous ces cœurs un peu perdus, exclus d'une société insipide qui ne leur ressemble plus. Amour pour ces gestes, ces attentions, ces petits riens qui font les trésors de notre quotidien. Pourquoi l'amour, je te le demande, pour tous ces produits qu'on achète, qui viennent de l'autre bout du monde, en avion ou par cargo, pour tout ce que l'on consomme ou bien pour tout ce que l'on rejette, pour ces décharges sauvages qui dégueulent dans le cave de peau. Pourquoi l'amour, pour ces mômes qui perdent la vie dans les mines de cobalt, à fabriquer mon téléphone portable. De l'amour pour notre eau potable qui nous est si précieuse et qu'on gaspille pour faire refroidir des foreuses. Il y a des usines partout, les hommes sont à genoux, les paysans de l'autre bout du monde cultivent leur blé pour nous. Alors ouais, tout ça nous semble abject, mais l'Europe a déjà perdu les 4/5 de ces insectes. Amour, 200 espèces qui disparaissent chaque jour. Amour, puisque l'on vient d'atteindre le point de non-retour. Urgence, partage, secours, réalité. Cédric Héroux condamné pour délit de solidarité. Amour, au nom de toutes ces choses qui sont impalpables, que l'on ressent avec le cœur quand on est vulnérable. L'être humain est-il réellement pardonnable? Ou sommes-nous tous victimes avant d'être coupables? Amour pour les artistes dont je croyais partager les combats, au nom de tous les rêves qu'ils ont fait naître en moi. Imaginez seulement l'ampleur de mon désarroi quand je les vois signer des pubs pour du Coca-Cola. Mais de l'amour quand même, puisqu'en offrir est un devoir à tous ces gens qui s'égarent sur le chemin du avoir. Amour pour toi camarade, je sais que tu fais ce que tu peux, que le monde est malade et que tu voudrais qu'il aille mieux. Mais voilà, ça implique des sacrifices, des choix de vie, et de comprendre que demain se construit aujourd'hui. C'est quand on aime et quand on donne, alors on s'enrichit. J'écris l'amour avec le A de anarchie.
Le froid, le vent, la pluie, j'écris la douleur et l'oubli comme des.
seul, c'est prendre les choses à la racine. J'écris l'amour avec le had anarchiste. Balance entre résistance et utopie. J'écris l'amour avec le had anarchie. J'écris l'amour pour tous ces mômes qui n'ont rien demandé. Débarquent sur une planète fragile, déjà bien abîmée. Contraint d'appartenir à une espèce suprémaciste, une espèce qui s'injecte du poison dans les racines. Pourtant l'amour est dans la plante qui se dresse avec alacrité et qui lutte, qui s'oppose à la gravité. Son combat dure chaque instant, elle le mène en silence. Regarde-la nous apprendre le sens du mot résilience. Amour pour les milliards d'humains ici présents. Nous qui nous sommes multipliés par 7 en 120 ans. Mais les richesses de l'Occident sont source de souffrance. Ailleurs, on exploite l'autre au nom de notre croissance. Les peuples sont asservis, étouffés par la misère. La Méditerranée est devenue le plus grand des cimetières. Et pour tout ça, l'amour, pas sûr que ça suffise. Un grand singe meurt quand un enfant mange un Kinder Surprise. Y'a plus d'oiseaux nulle part, ni sur les branches, ni dans les cieux. Avec le temps, les printemps sont devenus silencieux. On voulait vivre en harmonie, perpétuer les rituels. Mais à Paris, on peut déjà louer des robots sexuels. J'écris l'amour pour notre gène et doué président. Au nom de tous les riens, au nom de tous les feignants, je vous souhaite d'être heureux, monsieur, de tout mon cœur. De connaître le bonheur simple d'un jardin qui change de couleur. De vous éloigner des chiffres et de retrouver l'équilibre. Le seul moyen d'être libre, c'est de faire partie du cycle. Les paroles en plastique finissent à la poubelle. Au mieux, on les retrouvera dans l'estomac d'une baleine. On est d'accord sur un point, la vie est terriblement belle. Mais y'a peu de chances qu'on change le monde à coup d'action individuelle. Alors, unissons-nous et détruisons ce système. C'est aussi ça l'amour, c'est pas seulement des je t'aime. Nous sommes les derniers hommes à pouvoir décider de dire non à leur idéal, non à leur puce RFID. Nous sommes les tout derniers, ouais. Désolé d'insister, mais demain il sera trop tard pour résister. Alors rassemblons-nous, tentons de faire le bien. Puisque c'est sans doute ce dont le monde a le plus besoin au fond. Et parce que je ne crois plus aux autres solutions, j'écris l'amour avec le R de la révolution. Être radical, c'est prendre les choses à la racine. J'écris l'amour avec le had anarchiste.
Je prépare aujourd'hui le plus gros de tous les défis. C'est un cadeau.
Cœur qui balance entre résistance et utopie. J'écris l'amour avec le had anarchiste. Alors j'écris l'amour, le cœur surchargé de peine. Puisque même dans l'alphabet M est à côté de N.
J'écris le froid, le vent, la pluie. J'écris la douleur et l'oubli. Comme des cadeaux de la vie. Demain se prépare aujourd'hui. Le plus beau de tous les défis, c'est un cadeau de la vie.
Sensation d'Arthur Rimbaud. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Extrait de l'offrande lyrique de Tagore. Le même fleuve de vie qui court. Le même fleuve de vie qui court à travers mes veines, nuit et jour, court à travers le monde et danse en pulsations rythmées. C'est cette même vie qui pousse à travers la poudre de la terre, sa joie, en innombrables brins d'herbe, et éclate en fougueuses vagues de feuilles et de fleurs. C'est cette même vie qui balance flux et reflux dans l'océan berceau de la naissance et de la mort. Je sens mes membres glorifiés au toucher de cette vie universelle. Je m'enorgueillis, car le battement de la vie des âges, c'est dans mon sang qu'il danse en ce moment.
Il faut sauver la planète!
Garde à l'écoute!
Le compte à Wabo est lancé, l'alerte est déclenchée.
Qui peut sauver la planète?
Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on est tous en danger.
Qui peut sauver la planète?
La question que je me pose, quelqu'un peut-il me répondre?
Qui peut sauver la planète?
Elle n'est pas à vendre, ni non plus à acheter.
Qui peut sauver la planète?
Faut-elle que les étoiles tombent du ciel ou que la nature se révèle, qu'on prenne conscience qu'il est grand temps de mettre un terme à cette démence en fonce. Tout droit vers le chaos et personne ne s'inquiète. On rêve toujours plus au profit, on pense qu'à la puissance. Pour que l'homme sera pas bien dans sa tête, il en sera de même pour la planète. On aura beau rêver de Mars, c'est sur terre notre vie un sens. Je suis le fruit de ses entrailles, né de sa poussière. En son sein, je me reposerai.
Le Katawabo est lancé, l'alerte est déclenchée. Qui peut
sauver la planète?
Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on est tous en danger.
Qui peut sauver la planète?
La question que je me pose, quelqu'un peut-il me répondre?
Qui peut sauver la planète?
Elle n'est pas à vendre, ni non plus à acheter. Qui peut
sauver la planète?
Terre, la souffrance de la terre n'a d'autre but que de faire faire plus de profit, de bénéfices à de pervers hommes d'affaires. Mais ne nous laissons pas faire, nous avons le choix, mes frères, pour qu'il soit juste, gardons nos esprits clairs, pour que l'eau des rivières ne se tarisse, que nos vies ne deviennent à jamais trop tristes, que respirer ne soit un supplice. Soyons prêts à tout sacrifice.
Question que je me pose, c'est toujours pas de réponse.
Le Katawabo est lancé, l'alerte est déclenchée.
Qui peut sauver la planète?
Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on est tous en danger.
Qui peut sauver la planète?
Elle est vivante, ma planète, elle respire, ma planète. Vue du ciel, elle est toute bleue, c'est une déesse, ma planète. Elle est unique dans l'univers, qui peut prouver le contraire? Tant que le soleil brillera, elle vivra, ma planète. Des millénaires d'évolution, un siècle de régression, le saccage continue, pas une hanche à l'horizon. Les grès de ce monde se rassemblent, ne veulent pas entendre raison. La destruction totale, sans bête, la seule solution.
Le compte à Wabo est lancé, l'alerte est déclenchée.
Qui peut sauver la planète?
Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on est tous en danger.
Qui peut sauver la planète?
La question que je me pose, quelqu'un peut-il me répondre?
Qui peut sauver la planète?
Elle n'est pas à vendre, ni non plus à acheter.
Qui peut sauver la planète?
La question que je me pose, c'est toujours pas de réponse, yeah, yeah.
Qui peut sauver la planète?
Les philofables pour la terre de Michel Picmal. Comment les arbres ont perdu la parole. Il fut un temps où les arbres, les plantes et les herbes étaient des êtres vivants. Oh, je sais, allez-vous me dire, ils le sont encore aujourd'hui. Eh bien non, ils survivent, certes, mais ils ne sont pas vivants. Autrefois, les branches étaient comme des antennes, les feuilles comme des milliers de bouches. Les arbres écoutaient, les arbres parlaient. Ils étaient fiers, sauvages et libres. Ils traitaient d'égal à égal avec toutes les créatures vivantes. Même les hommes les respectaient. S'ils avaient besoin d'un peu de bois pour se chauffer, ils prenaient les branches mortes qui jonchaient le sol. S'ils avaient besoin d'un bout d'écorce, ils le demandaient poliment. Et les arbres le leur donnaient en souriant. Mais un jour, les hommes en eurent assez de demander la permission. Ils ne supportèrent plus d'avoir en face d'eux des êtres fiers, sauvages et libres. Ils voulurent les courber sous leurs lois. L'herbe pouvait bien pousser, mais pas sur leur chemin. Les arbres pouvaient bien exister, mais à condition de leur donner des fruits à manger ou du bois pour se chauffer. Sinon, ils n'avaient qu'à disparaître pour faire un peu de place. Quant aux rochers, il fallait arrondir leurs angles. Petit à petit, à force de ne plus jamais demander la permission aux arbres, à force de ne plus les écouter, ceux-ci arrêtèrent tout simplement de parler. On oublia le sens de leur langage, et les hommes finirent par se persuader qu'ils étaient muets depuis la nuit des temps. Et légendes de la Grèce antique, contées par Édouard Pititska. Le déluge. Il vint un jour aux oreilles de Zeus que les hommes étaient devenus tout à fait corrompus et commettaient beaucoup de crimes. Aussi pensa-t-il qu'il devait descendre sur la terre. Il voulait voir de ses propres yeux si réellement les hommes volaient, tuaient, se moquaient des dieux et disaient des mensonges au lieu de la vérité. Il vit avec peine et irritation que les hommes étaient encore pires que dans les récits qu'on lui avait faits. Un individu volait un autre en lui mentant. Les hôtes attaquaient et massacraient leurs invités endormis. Les enfants impatients d'hériter attendaient la mort de leurs parents. Les femmes donnaient du poison à leurs maris et les frères s'entretuaient. Zeus se sentit soulagé lorsqu'il atteignit des régions rocailleuses où il n'y avait aucun signe de vie. Pas d'homme, pas de ville ni de village. Une nuit, il parvint au palais d'un roi arcadien nommé Lycaon. Le peuple, s'étant rendu compte de la présence d'un dieu, se mit à prier. Mais le roi Lycaon se moqua de son peuple. « Nous verrons bien, » pensa-t-il. « Si ce passant est un dieu, je vais l'éprouver. » Et comme il y avait au palais des otages de la race des Molosses, il en tua un et le fit cuire. Il allait offrir un festin aux voyageurs, et lorsque celui-ci se serait gavé de chair humaine et aurait sombré dans le sommeil, il le tuerait lui aussi. Les serviteurs déposèrent des plats fumants devant Zeus qui, comprenant l'atrocité du festin qu'on avait préparé pour lui, se mit dans une violente colère. Il envoya sa foudre sur le palais de Lycaon et un vacarme assourdissant se répandit dans tout le royaume. Des flammes s'élevèrent de toutes parts et brûlèrent avec avidité tout ce que le roi possédait. Saisi d'une terreur mortelle, Lycaon lui-même s'échappa du palais et s'enfuit au loin de la colère de Zeus. Il ouvrait la bouche, mais l'horreur l'avait rendu muet. Et quand enfin il retrouva sa voix, il ne put qu'hurler. Il tomba à genoux et sentit ses membres et son corps se couvrir de poils et sa tête s'allonger. Il était transformé en loup, toujours assoiffé de sang. Depuis ce jour, il décima les troupeaux. Ses yeux étincelaient avec autant de férocité que lorsqu'il était encore un homme. Zeus retourna dans les cieux et convoqua les dieux à un conseil. Tous se pressèrent de rejoindre par la voie lactée le palais de marbre où Zeus trônait, préoccupé et furieux. Dès qu'ils furent rassemblés, la voix du dieu suprême tonna, décrivant les horreurs de la terre. « J'ai déjà foudroyé un palais, dit-il, mais tous les mortels, sans exception, doivent être punis. Je voudrais brûler toute la terre par la foudre, mais je crains qu'un tel incendie atteigne les cieux. Nous connaissons tous la prophétie selon laquelle le monde entier périra par les flammes. C'est pourquoi j'ai choisi le déluge pour laver la surface de la terre, des démons et de l'indigne race humaine qui l'habite. Alors Zeus enferma dans une caverne le vent du nord ainsi que les rafales qui dispersent les nuages et libéra le vent du sud. Celui-ci déploya ses ailes ruisselantes et s'élançant, un épais brouillard au front, sa barbe grise dégoulinante de pluie. De sa main droite, il pressait et tordait des nuages noirs, exprimant des torrents d'eau. Poséidon, dieu des flots, aidait son frère Zeus dans sa tâche. Il appela les dieux de toutes les rivières et de tous les fleuves, et leur ordonna de laisser les cours d'eau sortir de leurs lits, briser les digues et inonder les habitations. Les eaux envahirent les villages et les villes, recouvrant les champs, les buissons et les arbres. Bientôt, le niveau atteignit les toits et même les sommets des tours. Les gens essayaient de se sauver en nageant, mais la pluie les assommait. Quelques-uns parvinrent à gagner les sommets des montagnes, mais bientôt l'eau les submergea, entraînant leurs corps dans les profondeurs infinies de la mer nouvelle. Ceux qui montèrent dans des barques et des bateaux pour essayer de se sauver firent naufrage sur des anciennes montagnes transformées en récifs. Des poissons étranges nageaient dans les profondeurs, passaient çà et là à travers les maisons et les temples dont les fenêtres et les portes avaient été arrachées par la tempête. Les cerfs, les loups et les sangliers luttaient en vain contre les vagues, et les forêts étaient peuplées de dauphins. La terre devint une mer immense, même les oiseaux épuisés par leur vol finissaient par tomber dans l'eau, faute de pouvoir se percher. Celui qui ne fut pas englouti par les vagues mourut de faim. Dans le pays de Phocide, le mont Parnasse s'élevait encore au-dessus de l'eau. Un petit bateau, dans lequel s'étaient réfugiés Deucalion, fils de Prométhée et Pyrrha, sa femme, s'avançait dans sa direction. Prométhée les avait prévenus à temps et leur avait donné une robuste embarcation. Lorsque Zeus vit que les seuls rescapés étaient Deucalion et Pyrrha, tous deux honnêtes, justes et pieux, il dispersa les nuages, montrant les cieux à la terre et la terre au ciel. De même, Poséidon posa son trident, qui avait soulevé la mer, appela son fils Triton et lui demanda de souffler dans sa conque. Triton sut souffler avec une telle force que le bruit emplit toute l'atmosphère. Il souffla et les eaux se mirent à refluer. Les rivières retournèrent dans leur lit, la mer revint à ses anciens rivages. Deucalion et Pyrrha arrivèrent au mont Parnasse, se mirent à genoux et remercièrent les dieux de les avoir laissés en vie. Puis ils regardèrent autour d'eux et ne virent qu'un désert. Les forêts retenaient encore dans les branches des arbres quelques parcelles de terre. Tout était silencieux et privé de vie. Deucalion soupira doucement. « Cher Pyrrha, dit-il, nous sommes les seuls survivants. Qu'allons-nous faire ? Si seulement je pouvais, comme mon père, créer un homme avec de l'argile. » Les yeux pleins de larmes, Deucalion et Pyrrha se mirent à prier sur les marches pleines de mousse du temple de Zeus. Ils l'implorèrent de les aider à rendre la vie à la terre, et le maître des dieux ému leur donna ce conseil. « Quittez ce temple, voilez vos têtes et jetez derrière vous les ossements de votre grand-mère. » Perdus dans leurs pensées, ils quittèrent le temple sans parvenir à comprendre pourquoi ils devaient ainsi troubler la paix de leurs ancêtres. Ils réfléchirent longtemps, quand soudain Deucalion comprit que la grand-mère dont parlait le dieu était la terre. « La terre est notre grand-mère à tous, dit Deucalion, et ses ossements ne peuvent être que des pierres. » Il doutait que les cailloux puissent faire revenir la vie sur terre. Pourtant, aidé de Pyrrha, il en ramassa et les jeta par-dessus son épaule. C'est alors que le miracle se produisit. À peine touchait-elle la terre que les pierres perdaient leur dureté et qu'elles se transformaient en corps humain. La partie la plus dure devenait les os. Quant aux veines de la pierre, elles sont à l'origine des veines du corps humain. Les pierres que Deucalion jetait se transformaient en hommes, celles que jetait Pyrrha se transformaient en femmes. C'est ainsi que vint au monde une nouvelle race d'hommes, actifs et résistants au travail et à la souffrance, race issue de la pierre et dure comme elle. Thank you.
qu'est-ce qui, pour vous, abîme, néglige la terre et la nature?
Quoi abîme la nature? L'inconscience des êtres humains. C'est clair. Ouais. Mais on peut dire l'avarice, vouloir plus, consommation, la technologie. Mais surtout, pour moi, c'est s'éloigner tellement de la simplicité, du naturel. Après, tu dis, oui, c'est quoi le naturel? C'est quoi la simplicité? Pour moi, c'est ce que c'est normal. Être en harmonie avec la nature, ça veut dire pas se sentir au-dessus d'elle, sinon vraiment vivre en communion, on dit.
Pour moi, c'est en lien avec ce que tu dis quand même. En fait, c'est tous les actes, toutes les choses que font l'homme. Ce qui néglige le plus la nature, c'est quand même l'homme. Sauf que l'homme fait
et
partie
la
de la nature. Non, mais l'homme avec un humain.
L'humain.
Ouais, okay, l'humain français, d'accord. C'est l'humain. Mais c'est mieux dire l'humain, en effet. Et en fait, c'est tous les actes...
L'humain.
C'est tous les actes, toutes les choses que l'humain fait, issues de la pensée qu'il ne fait pas partie de la nature. Et se croyant séparé de la nature, il essaye de la dominer, de la maîtriser. Et il oublie en fait la simplicité des choses. Et du coup, il agit d'une manière qui va faire du mal. Enfin, qui va pas aller dans le sens de la nature ou de la vie, quoi. Un petit peu avec des pulsions de mort même, je dirais. Mais voilà, parce que c'est la séparation.
Ouais. Et c'est vrai qu'on est dans un moment de l'évolution un peu radical. On est en train de vivre, oui, un excès aussi de contamination dans la formation, information dans les médias de communication. Aussi, il y a une contamination mentale qui aussi contamine la nature. Vraiment se séparer, pas seulement dans le confort, dans le matériel, sinon d'être vraiment éloigné de notre propre nature, d'être en lien avec l'air même, à respirer, ça c'est... Mais en fait c'est logique, non? C'est que l'eau, l'air, la terre, c'est précieux. Oui, on se dit, on le sait comme ça, mais après si on le réfléchit deux fois, et on se rend compte.
Le problème, c'est qu'on l'a bien oublié dans notre culture, quoi.
Se sentir au-dessus de les autres êtres vivants qui ont cette planète, expérimenter l'inconscience.
Du coup, pour apprécier toutes les nuances de conscience ou de manière d'être au monde, en fait, il y a cette nécessité d'aller dans les extrêmes.
Ouais.
Pour peut-être après être libre et être au milieu et choisir ce qui est bon pour soi. Et du coup, et là-dedans, en fait, chacun, individuellement, on va choisir ce qui, pour nous, est OK. Sans vouloir mettre de dogme et dire ça doit être comme ci, comme ça. Mmh. Et chacun va chercher. Et après, et du coup, ça fait une couleur propre pour chacun. Et après, on pourra apprécier la couleur de l'autre et se dire, mais toi, t'aimes ça, mais c'est quoi ces lires? Moi, pas du tout. Mais raconte-moi pourquoi t'aimes ça.
Comment avez-vous la sensation de préserver cette nature, cette terre?
À travers la contemplation.
Ah.
Les nuages. Pour moi, regarder les nuages, c'est regarder le mouvement du moment. Aussi l'eau, les feuilles, tout absolument. Mais c'est bien des fois, on est si dispersé de se centrer en quelque chose de simple. Ramener le focus, l'attention à ce qu'on a envie, mais et dans la nature, sortir faire une petite balade comme ça, et déjà ça, être en silence et l'écouter, en fait c'est la nature en train de se percevoir elle-même. Mais quand on arrive à à sortir de notre identité mentale, de notre construction, de ce qu'on croit savoir tout, et on est juste des percepteurs et des émisseurs de vie, en train d'amener vie à la vie, à travers la perception.
C'est beau. Ben moi, je rajouterais, dans la même idée, c'est que oui, en l'appréciant, en fait, après, je vibre de la gratitude. Et du coup, je vibre quelque chose qui lui fait du bien. Parce que je la reconnais, je la vois, je me vois après. Mais... Donc il y a quelque chose qui s'alimente comme un cercle vertueux. Et du coup, bon, ça c'est l'aspect un peu impalpable de comment, comment j'ai la sensation de la préserver. C'est vrai que moi, depuis longtemps, j'ai un peu choisi cet aspect impalpable qui, pour certains militants, va sembler vraiment perché. Mais je sais que moi, c'est comme ça que je peux faire. Quoi.
Parce qu'on a l'impression, à ce moment-là, d'être avec la nature et d'être un tout, du coup.
Eh bien, elle est contente parce que... Ouais, je suis... Elle, tu vois. Et je pense que du coup, il y a quelque chose qui se fait. Et après, pour revenir à un truc plus terre à terre, moi, je sais que ça fait des années que si je suis dans la nature, je ramasse les choses que je vois.
Les déchets.
Les déchets. Et d'ailleurs, une fois, j'étais en balade et j'ai vu au loin... une batterie de voiture et je me suis fait mal pour descendre, pour aller la chercher et tout. Et là, j'ai voulu la porter et j'ai pas pu.
Ah, c'est lourd, ouais.
Et du coup, gros échec, je l'ai laissé. Mais voilà, depuis toujours, je sais que je fais ça aussi, même si c'est pas grand-chose. Et après, plein de petits gestes de colibri, mais je sais pas. Et en même temps, je vis plein de paradoxes d'humain, du moment. Voilà.
Merci à vous.
Merci.
Je vous remercie pour votre présence auditive. La nature est là, accueillons-la.